point, c'est le suivant. C'est que je reprends le verset Yud Gimel. Vaydaber Hashem el Moshe vel Aaron vayetzavem el bnei Israël vel Paro meler Mitzrayim leotzi el bnei Israël meretz Mitzrayim. Non, avant le verset Yud, pardon. Vaydaber Hashem el Moshe lemor, Hashem parla à Moshe en disant Bo daber el Palo el Paro meler Mitzrayim veshalar et bnei Israël meretz. Bien. Donc la semaine dernière nous avions développé via, bien comme si Pharaon était Dieu était à côté de Pharaon, vient parle à Paro, le roi d'Égypte, qu'il renvoie les enfants d'Israël de sa terre. D'abord, Moshe l'ifne Hachem les morts. Hachem parla à Moshe en disant, « En ben Israël, lo shamu elai. » Voilà, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. « Er ishmaini Paro, bani aral sefataim. » Et comment Pharaon va m'écouter? Et je suis incirconcis des lèvres. Moshe dit, c'est un des 10 raisonnements a fortiori qui se trouve dans la Torah. Hachem parla à Moshe à Aaron et les a mandatés sur les enfants d'Israël. Leur a fait incomber le fardeau des enfants d'Israël. Rashi explique, les a ordonnés la niga benachat, de les conduire avec douceur, de ne pas les brusquer. Et il les a ordonnés par rapport à Pharaon de conférer de l'honneur à Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël de sa terre. Et les rochers Betabota, voilà les chefs des maisons paternelles, les fils de Réhouven, patati patata. Ok. Alors ça, on a vu la semaine dernière, et on va faire le Maharal. Vous avez le texte? Oui. Chapitre 31. Shoshim Vecha. Et les rochers bêtes abrutables, voilà les chefs des familles maternelles. Non, il y en a plein. Excuse-moi, j'ai oublié de te remercier profondément pour la synthèse que tu avais envoyée la semaine dernière.
Bon, mais ça rend très parfait.
Non, mais c'est parfait, excuse-moi.
C'est pour Abraham, surtout.
Oui, oui.
Excuse-moi, tu as mandaté, hein.
Excuse-moi de pas t'avoir serré la bouche. Et les, si, j'assiste. Et les rochers, Betaoui. Il trie le saper, Yehoussa, Merouven. Il a commencé à rapporter leur ascendant à partir de Merouven. Kelomar. Chez Yatsou, Meshevet, Lévi, chez Lichi, Lashvatim. Pour bien mettre en relief que Moshe et Aaron sont sortis de la tribu Lévi, qui est le troisième des tribus. Vashlishi tamid yoter mukhan lekabel hashlemut bavur sheu mispar shalem, parce que le 3 est toujours prédestiné à recevoir la perfection, parce que c'est ainsi un chiffre parfait. Ka echad enbo ribuy veno nikra mispar, le 1 n'est pas une multiplicité, n'est pas un chiffre, c'est un concept, le 1. Ce n'est pas un chiffre. Mispar Shnaim et non Mispar Shalem. Ki enbo rak zug venbo nifrad. 3 n'est pas un chiffre parfait. Pardon, 2 n'est pas un chiffre parfait. Car il n'a que son associé. Il n'a pas quelque chose qui se sépare. C'est-à-dire, il y a l'un et le 2, donc l'un et le 2 finalement se complètent et ça n'englobe pas quelque chose d'autre. On se croirait la pensée Gaston Lagaffe, m'enfin, ou Achille Talon. Mais enfin,
on a du mal à. Ce que je vois quand même, c'est que dans les Avot.
Il manque l'enfant, le 3. Non, mais
c'est... Ah, l'enfant, moi j'avais regardé. M'enfin. Je croyais que c'était une réflexion de type Gaston Lagaffe. Non, mais.
J'aurais préféré sortir m'enfin que enfant.
Non, d'accord.
Non, on voit avec les Avot.
Ah, c'est la Trinité, quoi.
Ouais, l'enfant de.
J'ai entendu rire dans la salle, là.
Ça me plaît bien, ça me plaît bien.
Mais en vérité, il n'y a pas seulement la Trinité. Vous savez que les francs-maçons, ils s'appellent les frères trois points. Vous savez ça, les enfants?
Pour moi, les francs-maçons, c'est un mystère encore plus grand que les juifs. Quoi. Je sais que ça existe, mais je ne connais rien. Enfin, je sais que la moitié des ministres, ils sont francs-maçons.
C'est leur symbole, c'est un
voilà, triangle. C'est un triangle hein. Les frères trois points. Tous les francs-maçons, c'est un triangle. Ouais, ouais, les francs-maçons,
c'est ça, c'est une religion, les francs-maçons, ou c'est une pensée
Regardez, c'est pas le sujet. Hein, en un mot, commençant, mon père est un grand franc-maçon, hein, Papy Léon, que tu as connu.
Oui, Santello.
C'est la choule des juifs pas religieux.
Mais c'est ça, il voit une contradiction entre ça et une autre idéologie. Quelqu'un peut être franc-maçon et bouddhiste ou franc-maçon et juif dans sa tête. Disons, je ne parle pas. Voilà.
Regardez, c'est pas le cœur du sujet.
Oui, mais excusez-moi. Hein.
En un mot, comment pourrions-nous dire ça veut dire qu'au Moyen-Âge, les maçons, qui ont construit les cathédrales, etc., ou les châteaux, avaient une tradition ésotérique. Ah oui. Tu ne construis pas... Là, on est allé à Angers, là, tout à l'heure. On est passé à côté de Chartres. Chartres était construit, comme toutes les grandes cathédrales, sur une tradition ésotérique qu'avaient les maçons. Il y a des livres entiers là-dessus, c'est très sympa. Cette tradition ésotérique s'est transmise et au siècle des Lumières, ces cercles ésotériques ont été les ferments des bouleversements du siècle des Lumières. C'est-à-dire tous les grands
mais Rousseau et autres.
Rousseau et autres étaient francs-maçons.
Non.
Oui, évidemment. Robespierre était franc-maçon.
Bon, je ne vais pas faire perdre du temps à tout le monde, mais là, il faut que je me.
Oui, je te conseille. Et toute la pensée républicaine et la Troisième République, la laïcité. Alors, la laïcité, en vérité, quelque part, c'est une mystique. C'est pas, ça veut, par exemple, pour un philosophe français, tu dis, c'est qui ton Dieu? Ah non, mais non, moi je suis athée. Non, non, c'est qui ton Dieu? C'est-à-dire, c'est qui mon Dieu? C'est Spinoza. Voilà. Mais, parce que, au fin XVIIe siècle, il y a eu des bouleversements et en vérité, même j'irai plus. Là où j'ai trouvé une idée très très intéressante chez Gershom Scholem, qui dit, lui, il dit en vérité, les bouleversements de la laïcité sont venus de Shabbat Haïtzvi. C'est-à-dire, c'est Et par l'immanence, on a parlé, là, il y a deux séances hein, de l'immanence, mais c'est ça, c'est-à-dire que la nature, c'est Dieu. Il n'y a pas de séparation entre le Créateur et sa création. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des dimensions ésotériques qui sont les bases de la société occidentale actuelle, dont beaucoup vient de la franc-maçonnerie. Par exemple, toutes les lois sociales du 19e siècle du XXe siècle, c'est que des francs-maçons. C'est pour eux, en vérité, c'est quelque part, c'est un certain messianisme. C'est un messianisme, mais dans la un peu comme Shabbat Retzvi. Ok, on peut voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que eux, ils se réfèrent à Hiram. Eux, ils disent que leur tradition ésotérique vient de Hiram qui a construit le premier Beit HaMikdash. Bon, alors il y a voilà, ok, c'est comme dans tout. Si tu es dans une choule, oui.
Bonsoir.
Par exemple, Mozart était un grand franc-maçon.
Non.
Ah bah oui. À Mozart, ah ouais. Mozart, ouais. Si tu veux trouver un franc-maçon, la flûte enchantée est un opéra maçonnique.
J'ai une pensée qui sous-tend.
À Mozart, ça, là, c'est le grand maçon. Intéressant, hein?
C'était courant à l'époque, peut-être, dans une loge ou chez les grands.
C'est très 18e siècle. Très, très 18e siècle. Et, c'est intéressant. Tout ça, c'est intéressant. Comment les lois, je suis pas férus, mais il me semble que la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est franc-maçon. Il me semble aussi que la loi 1901, création des associations, etc., du tissu associatif, ça c'est franc-maçon. Voilà. Et par exemple, la législation, la légalisation de la contraception et la légalisation de l'avortement, c'est franc-maçon.
Dans Wirth et Veil, c'était des Ashkenazes.
Comment ?
Enfin, ils n'avaient pas votre trajectoire, un avec l'autre.
Oui, mais c'était que des francs-maçons.
Autour.
Juifs, juifs francs-maçons. Ça, c'est mon père a participé de ça en tant que franc-maçon. Bon, ce étant là,
ce qui est. On parlait des trois.
Alors, tout ça pour dire. Oui, tout ça pour dire.
Mishpar Shalem.
Tout ça pour dire que eux, entre eux, ils s'appellent les frères trois pour. OK. Et bon, on voit que dans le christianisme, il y a la Trinité. Oui. Bien. OK.
En tout cas, aussi, on voit que la Shlemout, il y a eu Abraham. Qui a évacué la partie Ishmael, Yitzhak qui a évacué la partie Esav, et la Shlemout arrive avec Yaakov.
C'est ce que notre ami Drogoziner m'a envoyé, n'est-ce pas, Abraham ? Il m'a envoyé tout de suite, il a dit il y a les trois patriarches. Il a réagi au quart de tour. Bien, on y va. C'est Abraham, non ? Je me trompe pas ? Ou c'est quelqu'un d'autre ? Abraham. Bien. On y va. Alors, Babour. Alors, donc le 2 n'est pas parfait. Parce qu'il n'y a que l'un et son vis-à-vis. Il n'y a rien d'autre. Il n'englobe pas. Il n'est pas Shalem. Babour, Shashlishi ou Mispar Shalem. Alors, Aval, Shlosha, Babour, Sheshbosh, Zug. Donc, en vérité, dans le 3, il y a l'un, son complément, et englobe autre chose. C'est un chiffre qui englobe. L'un, son complément et autre chose. Donc, il est prédestiné à recevoir la perfection. Le Ficar, Ouvrar Lévi, a été choisi Lévi. Chouachlichi, Liyot, Yotzi, Mimeno, Agoalim, que Lévi a été choisi parce qu'il était le 3, que sortent de lui les Goalim, comment on traduit Goalim ?
Les libérateurs.
Bavor, Achanato, Shiesh, la Shishi, El Kabbalat, Hashlemut, par la préparation qu'il y a aux troisième, de recevoir la perfection parce qu'il était le troisième. Yod, Yesh Larir Bazé Venkan Mekomo. On peut encore beaucoup développer sur ce point, mais ce n'est pas son lieu. Alors, le Maharal dans le Tiferet Israël le développe néanmoins longuement par le fait que Matan Torah, c'est le troisième mois. C'est une Gemara qui dit, Gemara dans Maseret Shabbat, qui dit que la Torah est toujours de l'ordre du 3. Les patriarches, ouais, Lévi, Moshe, c'est le troisième enfant, et la Torah a été donnée le troisième mois, le mois de Sivan, et la Torah elle-même est tierce, en cela qu'il y a Torah, Nevi'im et Ktuvim. Voilà. Toujours le 3. Alors, le Karaita Asiba, Shenasa, et c'est pour cela, la cause était le Karaita Asiba, c'est pour cela la cause que Amram a épousé sa tante. Parce que on dit que Amram, on voit dans les versets ici, a épousé la fille, on a vu la fille de Lévi, on a déjà vu plus haut, c'est pas la fille Lévi, la fille de Lévi, le fils de Jacob, qui était sa tante. Puisque Amram est fils de Kehat, Kehat fils de Lévi. Donc Yocheved est la sœur de Kehat, le père de Amram. C'est pour ça la cause que Amram a épousé sa tante, qui était Sheyu Aavaem Minashevet Shuvra Latzet Mimenu Agolim, pour que le père et la mère soient de la tribu choisie de laquelle sortiraient les libérateurs. Alors j'avoue que pour moi, j'ai lu. Ouais, Veni, Vici, non, Veni, main, mais pas, j'ai pas vaincu.
Ah. Il aurait pu épouser sa cousine de la tribu.
Ouais, oui, et aussi parce que le 3 est prédestiné à la libération, j'avoue. Que disons, ça me laisse de quoi. Hein. Là, les braves, là, allez, les dribbleurs.
On se posait la même question, je crois.
Comment ?
On se posait la même question. Pourquoi le 3 doit...
la même question. Benjamin Friwa, là, il nous dit quelque chose ? Pourquoi le 3 est lié, est prédestiné à la Géoula ?
Peut-être que dans le 3, parce qu'on dit aussi que pour le Esraïm, il y a le gauche, l'axe de gauche, l'axe de droite, l'axe du centre, et qu'il faut un équilibre pour peut-être qu'on puisse recevoir quelque chose de plus. C'est-à-dire que le triangle aussi, c'est un équilibre.
C'est vrai, mais c'est très juste.
C'est le Maharal sur.
Alors, Benjamin Fréoua nous dit quelque chose plein de sagesse. Il dit, je réfléchis. Alors, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tu as une chaise à deux pieds, elle se casse la figure. Une chaise à trois pieds, ouais, ça va. C'est trois points. Donc la stabilité, c'est trois. Ok. Mais c'est intéressant que le Maharal ne prend pas cette direction du tout. Puisqu'il dit que le 2, quelque part, la perfection, c'est le 2, c'est la stabilité, puisque c'est l'un et son complément. Mais c'est clos. Parce que le 3, c'est l'ouverture. Donc c'est quand même, c'est paradoxal, parce que nous, on aurait dit ce que vous dites, que le 3, c'est la stabilité. Et c'est vrai que le 2, en général, c'est la dualité, et le 3, c'est ce qu'on nous a dit à l'école, thèse, antithèse, synthèse.
Trois fermes,
ok. Alors maintenant, donc effectivement, Il note la blague.
Non, je
sera dans le compte rendu.
Hein. Lire le texte sur la QED de la sortie d'Égypte. Excusez-moi, hein, je.
Non,
je
fais comme tu veux. Nous sommes dans un espace de Géoula ici.
Amen.
Alors maintenant, ça va être le, comme mon ami Pinchas Pachter, ça va être le courrier de la Géoula ici. Alors maintenant, le Maharal ne prend. Donc vous avez dit quelque chose, puis en général, on dit que le 3, c'est la thèse, antithèse, synthèse. Le 3, c'est la stabilité. Or, le Maharal a l'air de dire le contraire même, que 2, c'est la stabilité. Le 3.
Ils tiennent bien chaud.
Voilà, ils tiennent bien chaud. Tu vois, comme. Oui, comme on dit. Et ça va dans le sens de, le
développement personnel.
De ce que dit monsieur, tu vois, c'est le couple fusionnel qui a été foutu en l'air par le fait qu'ils ont un môme qui maintenant, ils n'arrivent plus à dormir la nuit. Donc, voilà. Donc, ouais, là, t'es en phase. OK. Alors maintenant, on va essayer de continuer. Alors, « Ve'achav she'ouvrar shevet Lévi » Une fois qu'a été choisi « shevet liyot yotzim emeno goalim » que sortent de cette tribu les délivreurs. « Ouvrar mevne Lévi à Sheni » a été choisi le deuxième, Danou Keat. Keat. Ou Mibne Keat, Arishon ou Amram. Donc, les fils de Keat, le premier, c'est Amram. Ou Mibne Amram, Ashlishi, Myriam, Aaron, Moshe. Alors, donc, on voit le 3, ensuite le 2, ensuite le 1 et ensuite le 3. Mais Zekemo Shamano le Maala, c'est comme nous avons dit plus haut, Shachelishi Yeshbo Arana El Kabbalah Tashlemut, que le troisième, il y a une préparation à la réception de la perfection. Mitzad Shezea Mispar ou Mispar Shalem, parce que c'est un chiffre parfait. Vekacher Loyakan Shum Arana, Et Kacher, Loaya, Kanshu, Machana, Atsarir, les Mispar, Shalem, Kedesh, Yagia, Shlemut. Étant donné qu'ici, il n'y avait pas une préparation chez les enfants d'Israël, comme ça j'entends, donc il était nécessaire un chiffre parfait pour qu'arrive la perfection. Aval, Kacher, Aya, Kevar, Achana, El Ashlemut, Dainu, Shekevar, Nola, Levi, Shemucha, Liot, Yossim, Emeno, Goalim, Az, en sari rachana gemura mispar shalem le gamre. Ah, oui, non. Non. On reprend. C'est-à-dire, lui, que Lévi a dû être un chiffre parfait. Alors, si tu dis que 3, c'est un chiffre parfait,
prends le troisième
alors,
fils de Lévi.
Prends le troisième fils de Lévi. Pourquoi tu prends Kehat, qui est le deuxième?
Gershon, Kehat,
voilà. Marie. Et pourquoi ensuite voilà. Ensuite, tu prends Amram qui est le premier.
C'est le premier. Alors, voilà. Là, tu donc là, ça va. Troisième.
Et caché, Loayakan, Shuma, Machana, quand en vérité, dans les fils de Jacob, il n'y avait aucune préparation. On doit commencer par le 3. Caché, Loayakan, Achana et la Shlimut, que cette tribu Lévi, elle est en tant que telle proche de la Shlimut. Dainu, Shekevar, Nola, Lévi, Shemuchaliot, Yotsime, Nogalim, qui est prédestiné pour sortir de lui des libérateurs. Azensarir Khana Gemura, il n'y a plus besoin ensuite d'une préparation complète. Aval, Ayachanato Beshnaim Bilvan. Shaf Shnaim Yeshboksan Mispar, Kevoshe Beralmala, parce que 2, c'est un certain chiffre. 1, c'est un concept, mais 2, c'est un chiffre. Shemispar Zouk. Le cas Ben Lévi a Sheni, Shoukeat, Mouchal, Atsem, Yemno, Gwali. Kikol, Shevcha, Lagdi, Matov, Shewa, Geoula, Aya, Magdim. Parce qu'il y a un autre paramètre, c'est que la Geoula se rapproche. Donc on n'attend pas le troisième. Vacharka, Shosif, Beachana, mais une fois qu'il y a eu le 3, qu'il y a le 2, et qu'il y a cette préparation à la Géoula, alors il a rajouté qu'il n'y avait pas besoin, une fois qu'il a joué cette achana, qui kia al-shayashini, gamken, bo achana, ma kemosha marnou, il y a une certaine préparation. Le cas loya tsari od kla le gamra khana, il n'y a plus alors, il n'y a plus de nécessité d'une préparation à la geoula. Venolad berishod et tacher raoul atsem meno goalim, sort en premier celui qui est vraiment prédestiné que sortent les libérateurs. Amram aya rishon.
Pourquoi on ne prend pas le fils aîné de Amram dans ce cas-là ? Là, je ne comprends plus. Si on dit qu'il n'y a plus besoin d'Achana, bon, j'imagine qu'il va répondre. Mais...
Non, parce que Amram, quelque part, c'est la Géoula, puisque Amram, ses trois enfants sont les trois acteurs. Amram, en vérité, c'est la Géoula. Amram, c'est la Géoula en cela que ses trois enfants sont les acteurs. Amram a l'Arishon. Et quand sont nés les libérateurs eux-mêmes, ça maintenant, on est à une autre, on est à une autre dimension. Amram, en vérité, c'est la Géoula.
Il fait partie de ceux dont on dit qu'ils n'ont fauté que
par Etio Shel Nachash. Voilà, c'est ça. Mais Kacher, Noldou, Agoali, Batsmab, maintenant, naissent les libérateurs. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, avec, avec Amram, il y a la Géoula. Maintenant, naissent ceux qui vont être actifs dans la Géoula. Donc, ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est autre chose. C'est l'opération Géoula est lancée. Il y a la Achana à la Géoula. Et maintenant, c'est parti. Voilà, opération Géoula. Et Kacher Noldou Agouali Batsmab Zemala Acheret. Quand naissent. Alors, là, il y a un côté, on pourrait dire un peu. On dirait que Dieu prend les humains un peu comme des marionnettes, quelque part.
Il a un boulier.
Il a un algorithme.
1, 2, 3, top.
L'algorithme de la Géoula. Ouais, toi, mets-toi là, toi, viens au 3, viens au 2. Ouais, le flipper, paf, tac, paf. Ouais. C'est-à-dire.
C'est une manière de l'exprimer pour qu'on comprenne, mais c'est sûr que c'est un peu.
C'est comme on dit, Akol Safoul Barochout de Touna. Ce que le Maharal nous révèle ici, nous enseigne, c'est que tout est dans une pensée structurée, divine, précise. Maintenant, l'humain, lui, il agit librement. Maintenant, comment l'un s'articule avec l'autre, c'est quelque chose que l'humain peut-être n'a pas les outils pour comprendre, dit Maïmonide. Mais la réalité est comme ça. Je prends un exemple. Il y a un livre que... mon fils Hillel m'a fait découvrir depuis quelques mois, c'est les Sirot Moussar de Rav Chaim Shmulevitch, qui d'ailleurs ont été traduites en français, je ne sais pas comment c'est traduit, je ne sais pas si ça rend, mais c'est. Moi je trouve ça prodigieux.
Je vais découvrir un peu ça.
Peut-être je vous ai cité une fois,
non, je sais pas. Jamais. Moi j'avais découvert ça, enfin c'était quand j'allais. Au cours de David Benichou.
D'accord.
Ouais.
Alors, ça.
J'ai pas l'air si vieux, mais. Ah, les années passent.
C'est très, 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 très bon. Très bon. Alors, là.
Mais ça a été écrit par ses élèves parce que.
Parce qu'il a dit en yiddish, c'était en yiddish. Donc, ça a été.
Il y avait un Emmanuel Vanish ou un Abraham Drogoziner qui écrit
voilà, les tout. C'est non, ça. C'est ça. Oui, c'est ça.
Absolument. Ouais, donc, faut voir comment voilà. Ça rend. Ouais.
Hein non, mais c'est très bon. Hein non, là, en hébreu, c'est vraiment parfait. Alors, il rapporte que les enfants d'Israël ont demandé au prophète Shmuel un roi. Bon, c'était une vaste histoire. Et finalement, Hachem a dit, ok, je vais nommer un roi. Et il y a le petit Shaoul, son père a perdu des ânes. Il dit, Shaoul, est-ce que tu peux aller chercher mes ânes? Il va chercher les ânes. Pendant 3 jours avec son page, il tourne, il cherche les ânes perdus de son père, il ne les trouve pas. Ils arrivent à côté d'un endroit et il y a son page, lui dit, tu sais, là, il y a le prophète, peut-être on peut, je sais quel prophète, peut-être que on peut aller le voir et lui demander comment ça se fait qu'on tourne là comme des imbéciles pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passe. Et Hachem dit à Shmuel, tu sais, il y a un jeune qui va venir, c'est lui le roi. Et ils arrivent dans la ville, ils voient 3 jeunes filles qui sortent pour aller puiser de l'eau. Et donc, s'il vous plaît, où se trouve le roi, où se trouve le visionnaire? Alors les filles, elles disent, Maher, ata kayom ba lahir, ki boachem ahir, ken timsaun oto, vata alu ki oto kayom timsaun. Les filles, elles font toute une tirade incroyable. Elles disent, ah oui, c'est bien que vous demandez où est-ce qu'il est, etc. Parce qu'il vient juste d'arriver, mais faites vite, parce qu'il est en haut, mais en haut de la ville, mais je vous conseille d'aller vite maintenant. Alors, les chakam nous demandent pourquoi le verset raconte tout ce baratin que les filles ont. Il y a 2 explications. Première explication, que Shaoul était exceptionnellement beau, et que les filles, elles étaient comme ça. Alors, vous allez le
excuse-moi, attendez, je vous en dis bien.
Non, mais c'est important de nous dire que le premier roi qui va être nommé est exceptionnellement beau. Et comment on le sait? Parce que les filles, elles étaient là. Bon, alors, vous allez le voir. Vous ne pouvez pas le louper. Alors, il vient d'arriver. Alors, on peut vous le dire. Hein, oui, on l'a vu. Oui. Alors, prenez la première droite. Vous avez bien entendu? Ouais. Première explication. Deuxième explication. Extraordinaire. Deuxième explication dans le traité Brachot. Rabbi Yochanan dit, d'af même chet amoudbe dans la salle Brachot, le fils en malchut noga bechaverta afilu kimlo nima. C'est-à-dire que le moment précis où Shaoul deviendrait roi, et que le règne du prophète Shmuel s'arrêterait, n'était encore pas arrivé. Donc il fallait que Dieu magouille finalement un petit empêchement là de 45 secondes pour qu'il soit nommé au moment où Dieu avait décidé qu'il soit nommé. Donc il fait tout un développement que la réalité humaine, d'un côté, nous, on a nos choix complets, à col sa fouille, mais, non, à rechute de tout, la liberté est donnée complète, mais les choses se concrétisent par un plan extrêmement précis. Je pense que c'est ça ce que le Mara nous enseigne ici, qu'il y a une pensée divine extrêmement précise dans la sortie d'Égypte. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est ça, en vérité, toute la sortie d'Égypte. Les Égyptiens anciens étaient idolâtres. Ça voulait dire que pour eux, il y avait un créateur, mais il a abandonné ce monde. Entre parenthèses, on parlait des francs-maçons. C'est assez profond, la problématique des francs-maçons. Mais eux, ils appellent le Dieu le grand architecte de l'univers. En vérité, c'est une pensée déiste, mais que ce Dieu n'a rien à voir avec l'histoire humaine. Le grand architecte, il a un architecte.
Il est parti.
Il a fait, voilà, je ne sais pas si c'est un architecte qui a fait cette maison, mais ça y est, il est un architecte, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, salut les mecs.
Donc, il croit en un Dieu.
Comment?
Il croit en un Dieu, mais retiré du monde.
C'est plus complexe que ça, hein? Plus complexe que ça, mais en tout cas, c'était ce que les Égyptiens, eux, antiques, pensaient que c'est ça, au Shemi Hachem, l'onodatilem, il y avait Mi Hachem, quand Pharaon dit, qui c'est Yotke Mavke? Elohim y connaît, le Dieu de la nature. Mais que Dieu intervient dans l'histoire humaine, et là, la sortie d'Égypte, c'est Dieu intervient. Mais s'il intervient, il n'intervient pas comme ça, au petit bonheur. C'est avec une précision absolue. Et pour nous, je pense que c'est important, puisque nous avons la Emouna qui aura la Géoula finale, et que cette Géoula sera encore plus éloquente que la sortie d'Égypte. Cette Géoula est sûrement structurée de manière extrêmement précise, que nous verrons comment. Hein?
Et juste, ça me fait penser à quelque chose, le paradoxe entre libre arbitre et la prédestination, on va dire. C'est dans les mouvements de foule. Parce que je sais qu'il y a des. Maintenant, on sait, les mouvements de foule obéissent à des lois qui leur sont propres, voilà, qui sont modélisées, et statistiquement, ça va être vrai. Alors que chaque individu a un libre arbitre, peut quitter la foule, peut répondre au téléphone, faire n'importe quoi. Au final, le mouvement, il suit son cours qu'il doit suivre. Et c'est assez étonnant, je trouve. Oui. J'ai pas pensé à ça, mais on croit toujours qu'on a libre arbitre. Peut-être qu'on l'a individuellement, mais en fait,
globalement,
il n'y a pas libre. C'est le projet qui est là, il va y aller.
Un peu. D'accord.
C'est pareil. Ouais.
Ça veut dire que je reprends ce que toi tu dis. C'est-à-dire que il y a par exemple, un match, pas en confinement, ouais, un match au Stade de France, tu as 50 000 personnes et des ingénieurs, ils vont calculer combien il faudra de rames de métro, combien il faudra de temps entre chaque feu rouge, etc. Et mais en vérité, chacun, il peut partir en avance, il peut avoir parler au téléphone. Donc chacun a son chemin individuel qui lui est complètement libre. Mais globalement, ça marchera. A priori, tant qu'il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de surprise.
Et même si c'est un attentat, c'est une surprise. Mais du coup, la réaction sera prédictive.
Oui. Ouais. D'accord.
J'essaie de trouver le terme, il y en a un qui a réfléchi à ça, c'est justement au foule, au mouvement de foule. Et c'est du 19e siècle.
Ah oui.
Ah oui, oui.
C'est pas récent.
Ah oui, oui. Alors, aujourd'hui, il y a des statistiques, statistiques prédictives. Ça, c'est très sérieux. Il y a des algorithmes qui font très bien leur travail. Mais c'était pensé justement dans la maîtrise des foules et des. Mais par. Je vais essayer de retrouver, je vous l'enverrai sur le. Sur le groupe, enfin, je vous l'enverrai.
D'accord, avec plaisir. Ok, très bien. Ok. Alors, les cachers, donc je suis dans la colonne de gauche. Les cachers noldu à Goalim et Atzmam Zemala Heret. Lorsque naissent les délivreurs eux-mêmes, ça, on passe à un autre niveau. Les premiers n'étaient pas les libérateurs, mais les pères des libérateurs. Donc là, il y a une structure. 3, 2, 1. Partez. Vershav, Noldu, Agoalim, Beatzmam. Naissent les libérateurs eux-mêmes. Ayatsarir, Larzor. Maintenant, on revient à un autre niveau. Donc on revient à une nouvelle achana complète du troisième qui est Moshe. Le car si pour Toladot Tashfatim Zararze Al-Devi. C'est pour ça que ce passage nous rapporte le détail des naissances des tribus jusqu'à Lévi. Après, il y a une nécessité pour nous rapporter le plan précis de la venue au monde de ces libérateurs. Koloma. Quand est né le troisième, Azraou Lotsia Goalim. Donc là, c'est légitime qu'il sorte, de faire sortir les libérateurs. Mais si Père Eshtal Shelut à Goalim, et on nous raconte l'enchaînement des libérateurs, Shakol Beseder Raoui Omitkaven Meon. Donc, c'est dans une structure précise, pensée, vient d'avoir mimicré. Il n'y a aucun aléa. Kemo shamarnu bekama mekomot, comme nous avons dit moult fois, shen lomar ki haya davar echa bemikre min hageoula. Ça, c'est je pense que ça, c'est une phrase très importante dans ce que veut nous enseigner le Maharal. Il n'y a pas d'aléatoire dans la délivrance. Kol Sheken, Seder Ishtal Shelut, raison de plus, l'ordre de leur enchaînement, Rak Akol Al Pi Hashem, tout est la parole de Dieu. Omnam, Yesh Od Bazed Varim Amukim Meon Meon Binyan Ishtal Shelut Moshe Varon Velarir Yoter. Mais sache qu'il y a des choses encore beaucoup, beaucoup plus profondes dans l'enchaînement de Moshe et Aaron. Je ne vais pas m'allonger là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, Constantin, ça a l'air de te...
C'est un plan très précis. Ouais. Il faut savoir qui va apporter le bâton.
Non. C'est pas...
Rien de ce qu'il faut. Et c'est-à-dire qu'il y a d'autres domaines qui seraient bénis, où il peut y avoir du micré. Non, ça... Il n'y a rien de ce qui est touché à la Géoula n'est bénis micré. C'est difficile,
hein. Un petit peu dur.
Ça, c'est un sujet... Vous savez, il y a, comment il s'appelait, celui qui avait écrit « Le hasard et la nécessité ». C'est pas François Jacob, un grand mathématicien juif. Le père d'Odile Jacob, celle qui a fait les éditions Odile Jacob, son père, c'est un prix Nobel. Un prix Nobel, François Jacob, je crois qu'il a écrit un livre, « Le hasard et la nécessité ». Tu peux regarder Google, le hasard à la nécessité, plus. Ou alors c'est Mono.
Jacques Mono, non ? Jacques Mono.
Oui, c'est Mono. Hein.
Jacques Mono, oui.
Il est plus rapide que moi.
C'est Rav Google. Hein.
Oui, Mono.
Oui, Jacques Mono.
D'accord, Jacques Mono.
Jacques Mono, ok, je me suis trompé. Mais je crois que Mono et Jacob ont le prix Nobel ensemble.
C'est un biologiste, Jacques Mono.
Oui. Je crois que Mono et Jacob ont le prix Nobel ensemble. Je ne m'abuse. Bon, enfin, passons. Voilà.
Paris en 1970.
Bien. Quoi qu'il en soit, le titre, rien que le titre, est très intéressant. Le hasard et la nécessité. Rien que le titre, hein, en vérité, c'est le sujet. J'ai un livre là, laissez-moi une seconde, un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai dans ma bibliothèque.
Il a épousé une petite fille du grand rabbin Zadok Khan, Jacques Mono. Il n'était pas juif, mais. Et donc.
Ça allait bien.
Donc il a reçu le prix Nobel avec François Jacob. Mais bon, François Jacob aussi, c'est un biologiste. Hein. Ah, il est de Nancy, François Jacob. Bon, comme le rave. Ah là.
Vous savez qui c'est, Stéphane Jégoul? Je sens que vous ne savez pas qui c'est, Stéphane Jégoul. Stéphane Jégoul, tu connais?
Non.
Stéphane Jégoul. Alors, Stéphane Jégoul, ça me fait mal au cœur, parce que c'était un gros mamache. Il est décédé, je ne sais pas, à la louche, je vous fais ça, il y a 15 ans. Et c'était le gadol ador des paléontologues.
On l'a invité au grand débat du Cher, mais il est niftar.
Et ça. Franchement, ça m'a fait extrêmement mal au cœur quand il est décédé. Parce que c'est un juif de Brooklyn. Gould, c'est Gold. Hein. C'est un yid. D'ailleurs, il dit, parce qu'il a beaucoup écrit, énormément écrit, et il raconte... Que quand il était enfant, il est allé au musée d'histoire naturelle de Brooklyn. Et quand il a vu les ossements d'un tyrannosaure rex, il a fait Shema Israël, Hashem Elokim ou Hashem Echad, et il a cru qu'il allait mourir. Tellement il a été impressionné. Et il a dit, je serai paléontologue. Comme ça, il raconte, et il le dit, parce qu'aux États-Unis, être juif, c'est comment dire, ça se dit. En France, on est plutôt des maranes. Mais aux États-Unis, surtout quand tu es à New York, tu vois, dire que ta vocation de paléontologue est venue en disant « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad », ça c'est bon, non? C'est très bon. Mais alors, j'ai adoré ces livres.
Donc, qu'est-ce qu'il raconte?
Ah oui, alors je vais vous dire, ce livre, c'est vraiment talmudiste. C'est un livre, un pilpoul talmudique de 500 pages. Je vous dis de quoi il s'agit. Il y a ce qu'on appelle les schistes de Burgess, au Canada. Ce sont des schistes où il y a énormément de fossiles. Tu as déjà entendu parler?
Non, je crois que c'est des schistes, le gaz de schiste.
Des schistes où il y a des fossiles. Et les paléontologues ont regardé, analysé depuis, disons, 200 ans, ces schistes. Et ils ont imaginé ces petites bestioles-là, microscopique pour en vérité, à quoi elle pourrait ressembler. Et lui, il a réanalysé, il a montré que les dessins qu'ils ont faits, en vérité, c'était des projections, des idées préconçues qu'ils avaient que ça pourrait être, et qu'on pouvait les analyser complètement différemment.
Ah, donc c'est vraiment talmudiste. Il a dit, en fait, ouais, ils avaient une hypothèse et
Et j'ai adoré. Et c'est pas seulement ça, mais lui, il prouve qu'en vérité, il y a des fossiles qui n'ont eu aucune suite. Ça veut dire qu'ils n'ont donné aucune conséquence. Et c'est ça sa thèse. Sa thèse, c'est qu'ils ont lu ces fossiles avec l'idée que ça donnait quelque chose qu'on connaît après. Or, peut-être que non, peut-être que ça n'a rien donné après et que ça avait tout à fait une autre direction. Donc, lui dit que on a une idée de la théorie de l'évolution qui est une suite logique. Or, lui veut dire que non, que c'est des ruptures aléatoires. Il y a des ruptures aléatoires et que tu ne sais pas pourquoi telle série aura une pérennité et une autre n'a donné aucune pérennité. Donc, si tu analyses ces fossiles, il ne faut pas forcément avoir l'idée que ça donnait une pérennité. Il faut peut-être se pencher à quoi ça pourrait ressembler avec aucun modèle que tu connais. Et c'est ce qu'il prouve dans ce livre de 500 pages. Moi, j'ai adoré. Parce qu'en vérité, il dit que nous, on a une vision déterministe. Bon, qu'en vérité, il y a peut-être une évolution, mais aléatoire. Et ces dimensions d'aléatoire, c'est... Ouais. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai offert ce livre, ça c'est mon exemplaire, je l'ai offert à Rav Avi Bol. Tellement j'ai été ému quoi, par la démarche. Alors, c'est sûr que le juif pieux, en général, dira dire qu'il y a du hasard, etc. Au contraire, dire qu'il y a du hasard,
dire qu'on peut pas tout comprendre en tant que
ça veut dire qu'il y a la place qui est donnée à une pensée supérieure, qui n'est peut-être pas la tienne.
Oui, sans ça,
une volonté, on ne sait pas laquelle. Il y a peut-être une volonté qui te dépasse. Que nous, avec nos outils, on dira c'est le hasard. Mais le hasard est peut-être la place donnée à une volonté qui est supérieure. Donc, dire qu'il y a du hasard n'est pas peut-être contradictoire. Ce n'est pas contradictoire avec un projet, mais qui te dépasse peut-être. Tandis que si c'était tout linéaire, alors là, il n'y a pas de projet. C'est
l'architecte.
Oui, c'est un architecte. Un architecte, voilà, c'est ça. Donc, moi, ça m'a vraiment... j'ai vu vraiment là, dans ce livre, une pensée très profonde. Et lui, alors, il y va. Et c'est vraiment iconoclaste, très iconoclaste.
C'est un peu Darwin aussi. C'est-à-dire qu'il y a... Darwin, il dit ça aussi. C'est qu'il y a des directions qui ne vont rien donner. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui a réussi à survivre.
Finalement. Voilà, voilà. Donc, voilà. En vérité, voilà, lui, il se réclame du darwinisme. Ah, oui. Lui, c'est un néo-darwiniste. Mais en vérité, ce n'est pas contradictoire avec un plan divin. C'est ça ce qui m'intéresse dans cette histoire. Oui, bien sûr. Alors, donc lui, il veut prouver que, première chose, qu'il n'y a pas d'aléatoire dans le plan. Pour nous, il l'est peut-être, parce qu'on n'arrive pas peut-être à le déchiffrer. Donc, ce que l'homme appelle aléatoire, c'est ce qu'il ne comprend pas. Donc, voilà.
Comme ce qu'on a entendu la fois dernière sur les deux états qui sont superposés, etc. Enfin, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais on sent que ça nous dépasse.
Voilà.
Ça rejoint le débat Einstein-Bohr, oui.
C'est ce que dit Constantin.
Ah oui, tout à fait.
Deux états.
Alors, Benjamin nous dit. Seconde. Parce que là, c'est avec mon portable. Ce n'est pas avec l'ordinateur. Benjamin, il nous a envoyé un message. Je n'arrive plus à le retrouver. Il veut dire que dans la pensée de Bergson, tu peux nous renvoyer, Benjamin ? Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça, c'est la première chose. Midi omnam. Yeshol bazed varim amukim meol binyan haishtad shelut Moshe v'Aaron velarir yoter. Mais il y a encore des choses extrêmement profondes au sujet de l'enchaînement de Moshe à Aaron, mais je ne veux pas allonger plus. Me semble-t-il que quand il dit ça, il veut dire quelque chose de supplémentaire. Il faudrait se donner une petite méditation là, entre nous, entre la poire et le fromage. Parce que le thème de l'Eichtalchelout, le thème de l'Eichtalchelout, cher Manu, tu en conviendras que c'est un thème central de la Kabbalah. T'es d'accord ? J'aurais pas aimé. Un petit coquin. Hein,
Non, mais c'est vrai, je ne suis pas du tout initié.
L'Eichtalchelout, ça veut dire que il y a un grand thème.
Les mondes qui s'enchaînent.
Voilà, c'est l'enchaînement. Comment de l'infini de Dieu s'enchaîne toute la réalité ici terrestre. Donc là, ça c'est une grande thématique. Me semble-t-il, il fait référence à ces thématiques qu'il ne veut pas aborder. Mais dit, sache qu'à un niveau ésotérique, il y a une thématique de l'enchaînement ici. Voilà, c'est ça, absolument. C'est ça. On va continuer. Alors maintenant, une fois qu'il a rapporté, le verset a rapporté tout l'enchaînement des engendrements, on est au verset Kaftet. Alors, le Maharal, il fait un peu du surf. Hein. Du surf. Il a mis sa combinaison de surf. Et verset Kaftet. Vaïdaber, Hachem, El Moshe. C'est bon, Rémi ?
Oui, c'est bon.
Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts. Ani, Hachem. Daber, El Paro, Meler Mitzrayim, Et Kol Hacher, Ani, Dover, Eler. Dieu dit à Moshe en disant : Je suis éternel. Parle à Pharaon, le roi d'Égypte. tout ce que je te parle. Vayomer Moshe lifne Hashem, en ani aral sefataim ver ishma, ishma elai. Regarde, je suis incirconcis des lèvres, comment Pharaon va m'écouter? Vayomer Hashem el Moshe, re ne tatira Elohim, le pharaon, Aaron achicha ye nevir. Dieu dit à Moshe, regarde, je t'y mets comme chef à Pharaon. C'est-à-dire, tu vas être Rachidi, patron, chauffette rodé. Tu vas être un dominateur Elohim, un seigneur. Tu vas être un dominateur à Pharaon. Aaron, ton frère, sera lui qui parle. Navi, Rachi ici nous dit. Navi Echa, ton interprète. Alors là, regardez, ce Rachi, c'est un Rachi extrêmement important parce qu'on voit dans la Torah, les prophètes, il y a plusieurs mots. Je vous ai cité tout à l'heure, par exemple, le visionnaire, le Roé, le Rosé, Rosé, le visionnaire, celui qui voit, le visionnaire, Rosé, qui a donné le Chazan. Chazan. Alors, monsieur André Frankel, à la Vachalom, il disait que le chantre à la choule, il doit faire voir des visions. Par le chant, il doit éveiller des visions. Chazan, c'est intéressant, hein? Mm-hmm. Voilà. Et il y a Navi. Nun, Bet, Yud, Aleph. Alors, Rashi va nous dire. Et Aaron, ton frère, sera Navi Echa. Rashi Ketar Gumo, Yem Tog Manar, ton interprète. Vechen, Kolachon Nevoa, ton langage de prophétie. Adam, Amachiz, Umashmia, Leam, Divré, Tocharot. C'est l'homme qui promulgue, fait entendre au peuple des remontrances. Vous m'exera niv ce fataim. C'est de la racine, fruit des lèvres. C'est la cap. Il ouvre Chorma, l'expression de la Chorma. Prédiquer. Belaz korimlo prédiquer. Prédicateur. Le Navi, c'est le prédicateur. Voilà. Verset suivant, verset bête. Ata te daber et kolacher atzaveka, ve aaron achicha yedaber el paro ve shilar et ben israel. Tu vas parler tout ce que je t'ordonne. Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, il renverra les enfants de sa terre. Vani akshe et lev paro, virbeti et ototai, vet moftai, veret mitzre. Et je durcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes, mes prodiges dans la terre d'Égypte. Et là, le Maharal va s'engouffrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je durcirai le cœur de Pharaon. Alors, évidemment, il y a plein de thèses là-dessus. Plein de thèses. On va voir ce que dit le Maharal là-dessus. Vani Akshé, et les Pharaons. Yesh Makshim, il y en a qui posent la question. Lama irba kadosh bochu et amakot al paro le man rabot mofta beret mitzrayim. Il y en a qui posent la question, pourquoi Dieu a multiplié les coups sur Pharaon pour multiplier ses prodiges dans la terre d'Égypte? Ou me'achar shaya rotse paro lishmoa. Étant donné que Pharaon finalement était d'accord d'écouter Lama Noé Gimo Kolka Lakshot et Libo, pourquoi s'est-il conduit de cette manière de durcir son cœur à Tchelo Yochal Ishmoa, qu'à la fin il ne pourra plus écouter? Imken Amakot Alav Bechinam Alopacho. Parce que les Makot, ça n'a aucune logique. C'est pour qu'il lâche. Ouais. Alors tu vas lâcher les enfants d'Israël. Tu vas lâcher les enfants d'Israël. Donc les Makot, c'est pour qu'il lâche. Non, je vais durcir son cœur pour faire les macoles pour qu'il lâche.
Qu'il lâche tout de suite.
mais qu'il a tout
ça. On gagne une demi-heure.
Et au CNR, on marche plutôt. Bah voilà, on marche plutôt. C'est vrai, voilà.
C'est fait pour qu'on mange
plus tard. C'est la voie de la sagesse.
Tout est fait pour qu'on mange plus tard. Et qu'on...
Non, mais c'est drôle.
Ouais. Oui.
C'est, il fait les macottes pour qu'il lâche. Alors, tu vas lâcher les enfants d'Israël? Tu vas lâcher les enfants d'Israël? Et, oui, je suis d'accord. Hop, il dure son cap. Tu vas lâcher les enfants d'Israël? Mais laisse-le faire. Il est d'accord. Ah, c'est très bon. OK. Vezekachia chez le cloum. C'est rien du tout. Enzekachia chez le qui m'ipne shamar paro mi hachem 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 beko. Étant donné que Pharaon a dit qui c'est Hachem pour que j'entende sa voix. Aracha azé ve'amo ayu gormim shelo ye noda shemo hachem. Cet impie et son peuple causaient. Il dit je ne connais pas Hachem. C'est toi qui fais qu'on ne connaît pas Hachem. C'est toi l'impie, par ton impiété. Kakol yadou akfira, le gram chilul shemo idbara. Tout le monde connaissait, je ne comprends pas très très bien, je traduis cette dénégation et causait une profanation du nom de Dieu. Le karaoui sheye noda shemo. Hachem, Al, Yadam. Donc, étant donné, donc là, il rapporte un élément vraiment nouveau. Que eux, en vérité, Dieu, sa réalité est éloquente. Mais c'est l'homme, par ses actions, qui fait que le nom de Dieu est effacé et oublié. Donc, il est légitime que c'est par ses fauteurs que se dévoile le dévoilement du nom de Dieu. Raouch et Noda Shemo Hashem Al Yadam, qui van Shayu Kofrim Bishmo Ibara, parce qu'il niait le nom de Dieu. Par exemple, hier soir, un élève m'a invité à faire un cours quelque part. Oh, Shem, c'était super. Mais c'était super. Mais j'ai dit, regardez, pourquoi? Là, on est dans une phase particulière, appelons ça le déconfinement, d'accord ? Et on est confit du déconfinement. Maintenant, on est dans une situation extraordinaire, sublime. C'est la première année que depuis je suis marié, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances. C'est sublime, non ? Hachrim, attends, vous avez quel c'est
nous aussi, hein.
Comment ?
La voilà, même chose.
Non, mais c'est extraordinaire. Et même les vacances, c'est même pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, là ?
C'est pas comment.
Alors, les Français, ils pressent notre bon Emmanuel. Allez, vanille, c'est Emmanuel Macron. Ouais, notre bon Emmanuel Macron. Dis-nous la bonne parole.
Et lui, il en sait rien.
Et lui, il n'en sait strictement rien. Alors, quand on dit le gouvernement gère la situation, dis simplement, j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien. Et on est en face du dévoilement de la volonté supérieure d'Hachem. Non, mais pourquoi il ne dirait pas ? Non, mais c'est une question, pourquoi il ne dit pas ça ? Ça, c'est rachat quand même, parce que c'est quand même, nous, on vit une situation unique. C'est vrai qu'on est dans des choses tellement pratiques qu'on a les gosses à gérer, on a les trucs, les machins, bidule. Moi aussi, je suis, je ne sais pas, je reprends Henri Murger, je les ai appelés, ils me disent ceci, ils me disent cela. On m'appelle là, tout à l'heure, quelqu'un m'appelle, alors qu'est-ce qu'on fait ? On reprend, je ne sais pas. Alors, on est face. Alors, il y a mon fils, il reprend à l'école. L'autre machin, il devrait retourner à l'Yeshiva. Quand est-ce qu'il va reprendre à l'Yeshiva ? Je ne sais pas. OK, on a les gosses dans les pattes. On ne sait pas. Bon, ils sont adorables. Ça va bien 5 minutes. Ils sont adorables. Oui, mais encore. Bon, donc ça veut dire. Donc, effectivement, on a un quotidien spécial dans lequel on s'englue. Mais si là, on se prend un peu d'eau fraîche sur le visage, on dit mais c'est extraordinaire. C'est la première fois que qu'on vit un truc pareil. Même, j'aurais dit hier, les Jeux Olympiques ont été annulés. Et ça, c'est sublime. C'est sublime. C'est incommensurable. On t'aurait dit il y a un an, à cause d'un petit truc impalpable, de rien du tout, les Jeux Olympiques, on ne sait pas de quoi. Il est passé par ici, il repassera par là. Ouais, le Covid, les bois, mesdames. On ne sait même pas quoi, on ne sait même pas que, on ne sait pas quand ni où, et on annule un truc qui est sacro-saint, que ça fait, où il y a des gens qui bossent comme des fous, par exemple, ces athlètes.
Les Japonais qui ne voulaient pas lâcher. Hein.
Ah oui, vous ne voulez pas lâcher.
Mais ça, c'est. Mais ça veut dire, c'est un guilouille d'une volonté supérieure. Soit d'une volonté supérieure, soit de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, qu'on se rende compte d'une chose qui est sublime. Jamais on t'aurait dit ça il y a un an, qu'on annule les Jeux Olympiques. Je ne suppose pas. Il y a des. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Eh ben oui, c'est annulé. Donc, c'est un truc. Mais on est comme la situation de la sortie d'Égypte, quelque part. On le vit, c'est nous. Nous, on vit ça, nous. On ne sait pas où on va. Dans une société hyper technologisée, hyper des calculs, les big data, et les trucs et les machins, on les met sur la mer pour que toutes ces machines, elles se refroidissent du fait de la mer, etc., machin. On les interroge. On ne sait pas. C'est extraordinaire que Macron, ils disent, regardez ça. Je vous adore. C'est un peuple extraordinaire. Et ben, je ne sais pas. Vous ne savez pas, je ne sais pas. Au contraire.
Est-ce qu'il y a déjà eu un roi d'Israël qui a...
Oui, qui a... Ah oui, ben je... Yoshiaou. Le roi Yoshiaou, ils étaient tous idolâtres. Ils étaient tous dans l'idolâtrie. Quand son père est mort, enfin, c'est toute une histoire, machin. Il a dit, ok, stop, arrête. C'est fini. Tout ceci, il y a un seul Dieu, c'est Hachem, et on arrête de faire tout ceci. C'est d'ailleurs, le prophète Jérémie a dit c'est le Mashiach. Il est peu connu parce qu'il est mort dramatiquement, mais bon, c'est sublime. Comme il est mort dramatiquement, on ne donne pas son nom, son tradition, on ne donne pas son nom à nos enfants. Mais le prophète Jérémie a dit Yoshéaou, c'est le Mashiach. Pour tenir roi, rappelez-nous, ma chère Hachem, Nivkal Beshritotam, que dans les lamentations du prophète Jérémie, le prophète de Yahou, il parle, il roi, rappelez-nous, ma chère Hachem, c'est le chien. Donc, il y a eu le chien. Quelqu'un qui était idolâtre et stop. Alors, mais là, qu'est-ce qui manque? Donc finalement, quand tu dis oui, finalement, j'ai complètement confiance dans mon premier ministre, Édouard Philippe, etc., qui gère admirablement, et évidemment Gérald Darmanin, qui est aux manettes.
Je ne me dis pas la déclaration d'impôts. Voilà, les impôts.
Gérald Darmanin qui est aux manettes, et Castaner qui n'en loue pas une. Donc, non mais moi je les aime bien. Non, franchement. Non, les mecs, moi je trouve qu'ils bossent. Mais ce qui m'étonne, c'est quand tu ne sais pas, dis-le. Fais pas. C'est ridicule de dire oui, on assure, on ne sait pas. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Voilà. Et ça, dans tout ça, tout ce baratin, parce que c'est d'une actualité, ce que dit le Maharal, qui est bouleversante, que Pharaon, c'est de sa faute, s'il dit, « Mi Hachem, je ne connais pas Hachem. » C'est toi, mec.
Donc c'est lui-même qui a été gorem que son cœur
s'est durci. C'est toi, c'est ce qu'il dit. C'est dans ta main et tu le refuses. C'est de ta faute. Et moi, je me pose vraiment, sincèrement, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche Macron de dire on vit une époque extraordinaire. Et on vit une époque extraordinaire, reconnaissons, et qu'il y a une volonté au-dessus de nous. Oui, ils vont le taxer de ceci, ils vont le taxer de cela. Ok, d'accord, mais donc là, en vérité, c'est quelque part, si je peux me permettre, c'est ce que dit le Maharal. Je reprends. Et ça, c'est un chidouche. Qui m'éplait chama par omni Hachem Shalom, Aracha Zeveamo, Ayungom, Yimshalom. Eux, ils sont à la cause qu'on ne connaisse pas le nom de Dieu. Le cas Raoul, Cheyenoda, Shemo Hachem, Adiada, c'est légitime que le nom de Dieu se révèle par eux. Parce que eux, ils nient, et c'est eux qui vont à l'origine du dévoilement. Si, tout de suite, ils s'écrasent, il n'y a pas un dévoilement. Il n'y a pas de dévoilement. C'est bon, des coups, paf, à un moment. C'est eux, petit à petit, va se révéler le nom de Dieu par eux. En contrepartie du fait qu'ils ont dit qui est Dieu pour que je découvre. Donc il faut qu'il répare ce qu'il a abîmé. Que c'est par lui que soit révélé le nom de Dieu. C'est pour ça Dieu durcit son cœur. Parce que si. Ouais, ça veut dire tu le prends, tu prends le bras là. Comme ça. Oh, arrête. Ouais. Bon, il se passe rien, t'arrêtes. Non, mais que petit à petit, il y a un dévoilement de qui c'est Hachem par lui. Hachaliado, Yenoda, Shemoit Bara. Le karik shalibo, c'est pour ça durcir son cœur, chez l'Oishma, le maniavi alav Hachem makot akutubot, pour que Dieu amène les coups qui sont écrits. Et azienoda shemo il barar, et que là sera de notoriété publique le nom de Dieu par le biais de Pharaon. Ça, c'est première démarche. Franchement, c'est, moi je trouve que c'est une démarche innovante.
Rav,
oui.
Est-ce que ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, là, Paro, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Ça veut dire qu'il y a le plan très précis d'Hachem qui dit voilà, il va y avoir une libération. Et il y a malgré tout Paro qui exprime son libre arbitre en étant un impie. Et donc, il y a la rencontre de ces deux mondes où il va quand même avoir le mouvement général de la Géoula, mais avec une spécificité qui est due au libre arbitre de Paro.
J'ai rien compris. J'ai essayé, mais...
Tout à l'heure, on a dit, par exemple, pour les mouvements de foule. Il y a un mouvement de foule général, mais à l'intérieur, il y a des personnes qui vont pouvoir prendre des décisions autres que le mouvement général. Il y a la Géoula qui est prévue, en quelque sorte, depuis Abraham, en disant il va avoir ton peuple et ton peuple va sortir d'Égypte. Il y a un mouvement collectif qui est inscrit. C'est le plan précis d'Hachem. Mais comme Paro, là, il est présenté comme un impie et de ce fait, il a bafoué le nom divin. Alors, au lieu que cette Géoula se passe dans le Cam, elle va se passer par lui, puisque par son libre arbitre, il a donné une direction différente.
Oui, là, on dirait effectivement qu'il a donné, par son impiété, une direction nouvelle.
Nouvelle.
À la limite, les Makot, c'était peut-être pas obligé qu'il y ait dit Makot au départ.
C'est voilà, ça.
C'est ça, absolument. Là, ça a l'air d'être par la liberté de Pharaon qu'il va c'est y ça. Avoir les Makot. C'est ce qui a l'air de ressortir là, en tout cas, de cette démarche. Hein.
C'est voilà. Incroyable.
Absolument. Véronique, mais fondamentalement, l'Avkouchia où ? Mais d'un autre côté, la question comment ça se fait qu'il durcit son cœur, pour multiplier les makotes, ben, tu n'avais qu'à pas durcir son cœur, et puis tu as une maca, il sort, et puis voilà. Il dit Ot Mikara, l'Avkashiaou. Fondamentalement, il n'y a pas de question. Ki bechamesh makot arishonot, lo irzik akadosh bochou et libou. Car on peut remarquer que dans les cinq premiers makot, on dit plaie, moi je dis coup. Hein, pourquoi plaie ? On dit les plaies d'Égypte. D'accord, ok, bon, d'accord, allez, les coups. Plaie, moi j'aurais dit négaïm. Négaïm. Bon. Alors, car dans les cinq premiers coups, Pharaon n'a pas durci son cœur. Dieu n'a pas durci son cœur. C'est lui-même qui a durci son cœur. Et là, Neymar, Bechol Pam, Shemiatzmo, Ayachazek Libou. Il durcit, c'est Pharaon qui durcit son cœur. Les cinq premières plaies, ce n'est pas Dieu qui a durci son cœur. Vatam, qui est loué, Esser Makot, Shevia Kajbokhu, Alamitzrim, les dix coups que Dieu a amené sur les Égyptiens, Chamesh betartonim baaret, Chamesh beenonim bashamayim. Les cinq premières dans les éléments d'en bas, sur terre, et les cinq derniers dans les éléments supérieurs du ciel. Le kaman etzel beyat chazaka besruyan etuya, nous expliquerons cela au sujet. Un bras étendu, une main, un bras avec une main forte, un bras étendu. Ramesh Makot Rishonot, dans les cinq plaies premières, Kacher Ayou Amakol Betartonim, quand les coups étaient dans les réalités inférieures, Vadam Urosh Atartonim, Hachéou Minalionim Gamken, or l'humain est l'élément supérieur des éléments inférieurs, étant donné qu'il y a une dimension supérieure aussi chez l'humain. Le car, loyou amakot govrim alav yoter macher aya kocho shel adam. C'est pourquoi ses plaies ne le dominaient pas plus que la capacité humaine. Le car, paro irzik et ibo meatsmo. C'est pour ça que Pharaon durcissait son cœur. C'est-à-dire quelque part. Les cinq premières plaies, donc Dam, Tsefarnéa, Kinil, c'est or, l'humain est supérieur quelque part à ça. Donc, tout ce déchaînement des dimensions inférieures, l'homme, il n'a encore pas, on pourrait dire, la tête sous l'eau. Il est encore au-dessus de ça. Il n'y a pas une domination de la globalité de l'humain. Donc, il pouvait tenir et passer à autre chose.
Voilà. Le coronavirus, c'est un peu ça aussi. On tient encore. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de pourquoi
il n'y a pas de gênement.
Ouais. Parce qu'il gère. Quand, même s'il ne gère pas, il y a quand même cette impression de gérer. Et il n'y a pas encore les cinq plaies.
C'est bien, c'est très bien. Hein.
Ouais. Bon, je souhaite pas qu'on ait
des autres après.
Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être.
Mais je vais. Mais moi, je suis d'un naturel optimiste. Optimiste. Non, ça veut dire vraiment. C'est comme ça. Il faut que je fasse un effort pour être pessimiste. Non, vraiment. Et il y en a, c'est le contraire. Ils sont pessimistes, ils font un effort pour être optimiste. Moi, c'est le contraire. Pour être pessimiste, je fasse un effort. Par contre, je vais essayer de faire un effort. Parce que moi, il me semble qu'il y a déjà eu des signes avant-coureurs avant cette histoire du virus. Parce que les dérèglements climatiques étaient un bon. Aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment parce qu'on est passé, on a quelque chose de plus fort. Et ce dérèglement climatique était quand même un bon coup de pied au derrière auquel
non, il faut faire des voies de vélo partout. Hidalgo, elle a dit, voilà.
Non, mais, oui, mais non, justement.
Je te mets à fond.
Non, mais
moi, je n'arrive pas à être optimiste. Elle veut supprimer la moitié des places de stationnement.
Non, mais bon.
Elle est tarée.
Non, elle n'est pas tarée.
Je n'en dors pas la nuit.
Non,
attends, moi, je fais du vélo.
Pour aller à Guyancourt.
Mais non. Regarde. Tu es déjà allé à Londres. Moi, je suis allé à Londres. Je suis allé à Londres il y a 20 ans au mariage d'Oren Recht. Il n'y a pas 20 ans, il y a 15 ans. Okay, il y a 15 ans déjà, il y a 15 ans, 16 ans, pas une voiture rentre dans le cœur de Londres. Point, il y a coup d'un, on s'arrête, il n'y a pas de voiture. Alors voilà, c'est clair. Seulement, comme ici, on est un peu latin, machin, alors on ne va pas te dire un truc à la machin, on te tourne autour du pot. Mais c'est ça le but, pas de voiture dans le centre de Paris, et puis on passe à autre chose, c'est tout. Tu n'es pas content, tu vas en banlieue, puis voilà, c'est tout.
C'est ça, c'est clair.
C'est tout. À Londres, à Londres, pas de voiture.
D'ailleurs, les Juifs, ils habitent en dehors du centre.
Ben voilà.
Ça ne marche pas là.
Non, c'est tout. Il n'y a pas de. Seulement ici, on tourne autour du pot. Ok, t'as compris. On passe à autre chose. Ok, bon, recentrons. Mais le truc, c'est qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Et ce que tu dis, c'est vraiment, franchement, c'est très intéressant. Mais par contre, ça va me demander un effort pour être pessimiste. Parce que là, il y a des plaies qui s'accumulent. Et la réponse, elle est en deçà de la dimension de coup de pied au derrière. Et ce passage est terrible. Donc, toi, tu dis que ouais, ça n'intéresse pas ce qui se passait. Bon, ça va, on gère. Voilà.
On gère.
Ni flamme et ode. Tu m'as répondu à une question vraiment.
C'est-à-dire que le fait de ne plus gérer, d'un point de vue politique, de plus gérer, ça a été le confinement. Partout dans le monde. On arrête tout, chacun reste chez lui, on ne bouge plus. Ça a donné des résultats. Donc ça veut dire qu'on a géré une situation où on ne pouvait plus gérer en faisant un confinement qui a donné des résultats. Mais si le confinement n'avait pas donné de résultats, là, tu aurais un mouvement mondial de perte de contrôle. Donc là, il y a une sorte un peu un mirage comme ça, c'est-à-dire que
oui, il y a un trompe-l'œil,
parce que il y a eu une technique,
humaine,
je dirais même ancestrale. Hein.
Ouais, confiné, la peste.
Chacun retourne chez lui, on ferme les volets, on ne bouge plus, on attend.
Et ça, c'est géré. Pourquoi tu dis que c'est pas géré?
Pourquoi quand on est sur des sociétés relativement évoluées. Oui. Ils ont mesuré leur capacité à gérer les hôpitaux pour agir. Tu aurais pris il y a plusieurs années, tu ne gérerais pas une crise, une peste ou quelque chose comme ça. De la même manière, là c'est très sophistiqué. Ils ont mesuré la place et la capacité des hôpitaux à gérer les entrants. Lorsqu'ils ont compris qu'il y avait plus d'entrants que la capacité des hôpitaux, ils ont décidé de faire le confinement. Donc c'est très sophistiqué. Ouais. Oui, mais l'approche est sophistiquée en disant j'ai une capacité à absorber une maladie.
Je ne peux pas être noyé.
Dès que je suis débordé pour ne pas être noyé, je prends cette
on retarde au maximum le confinement pour que l'économie aille.
Alors après, tu mets l'économie avec le confinement. Mais si le confinement n'avait pas donné de résultat, imagine en ce moment, on est confiné et ça ne s'arrête pas.
Dans le virus,
ce serait un débordement, comme tu disais, là on gérerait plus, ce sera un débordement.
Dans les cinq dernières plaies.
Alors, on ne sait pas, les choses.
Mais là, dire qu'on n'est qu'à la première, c'est quand même un peu.
En Israël, ils sont encore dans des confinements terribles. On a 3 enfants en confinement, là, à l'hôpital.
Et ça s'est arrêté.
Mais dans certains quartiers seulement, c'est
quoi? Bon, je veux pas. Il y a des cas qui se. Des nouveaux cas. Il y a un tas de quartiers qui est fermé.
La blague sur la chaleur qui va diminuer la contagiosité du virus, c'est niette.
Ah oui, parce que là-bas, il fait très chaud.
Au début, c'était une espérance.
Ouais. Alors, ok. Alors, bon, ça pour dire que là, c'est. Je me demande comment le Maharal, il arrive à sortir des explications tellement incroyables.
Pour comprendre, est-ce que j'ai les 5 premières plaies, donc elles sont dans notre monde, et comme nous on a une dimension supérieure, on n'est pas étouffé par ce qui se passe. Mais c'est la 3e plaie où il y a les astrologues qui disent on voit le doigt de Dieu.
C'est vrai. Oui, mais c'est encore les kinimes, c'est les vermines, donc c'est en bas, c'est pas le ciel qui se déchaîne.
Oui, mais ils disent quand même ça vient de.
C'est vrai. Alors, ok. Le car loyau à ma côte govrim à la vioter ma chère Aya Coco chez la dame. C'est pour ça les coups ne dominaient pas plus que la force de l'homme. C'est pour ça Paro irzi ketli bo miatsmo. C'est pour ça Pharaon se durcissait lui-même. Et kacher itril lavo à ma côte à rachonot chez mes Elionim. Mais quand les coups derniers viennent des réalités supérieures, d'avoir chez Oyoter, ça l'homme n'a pas de prise dessus. Mais vada yalam shalar et Israël, lo bishvil shu choser betshuva. Indubitablement, là, ça aurait été la déstabilisation complète, mais pas à titre de teshuva. Rag shamakot kolkar kashot alav, mais parce que les coups sont trop durs. Bakalshbo rotse sheloye adam muchar bemasav al yedei makot. Mais Dieu ne veut pas que l'homme soit contraint dans ses actes par des coups. Le car à Kadosh Bor Erzik Edibo Negetze, Sheyu Amakot Baot Alav Lachiyar Sheshalar et Israël. C'est pour ça que Dieu a durci son cœur. Par rapport au fait que ces plaies venaient le forcer, on ne veut pas qu'il soit forcé. Kenegedze, il ne voulait pas que ce soit forcé. Kenegedze, Rzik et Dibo, la Chiyar auto chez l'eau, Yeshala. Vayama Chiyar auto le Tzadacher. C'est pour ça qu'il le contraignait qu'il n'en voit pas. Donc il le faisait pencher dans l'autre sens, pas dans le sens d'envoyer, pour qu'il ait la capacité de liberté. La capacité de liberté. Ça, c'est. La plupart des commentateurs disent ça. Que c'est, si je m'abuse, Rav Dessler développe cela. Parce que là, s'il n'y avait pas l'intervention de Dieu, il leur dit tout de suite, partez. C'était tellement fort par rapport à lui qu'il n'avait plus de capacité de résister. Or, Dieu veut qu'il ait la capacité de résister pour que ça soit un retour qui vient de lui. Voilà. Donc, il n'enlève pas la tchouva. Donc, la démarche, il n'enlève pas la tchouva. Au contraire, il donne la possibilité de faire la tchouva. Donc, ça, c'est un tournant.
On dit que le fait d'endurcir le cœur, c'est sa punition.
Voilà. Ça, c'est Maïmonide.
Oui.
Ça, c'est Maïmonide.
Là, c'est une autre démarche.
Hein? Ça, c'est Maïmonide. Rambam dit qu'il a tellement fauté que Dieu lui enlève la liberté. Mais là, ce qu'il dit, non. Au contraire, c'est pour qu'il ait la liberté, il durcit le cœur. Ça, c'est. Rav Dessler reprend ça. Hein. Rav Dessler a donné des lettres de noblesse à cette démarche. Il le faisait pencher de l'autre sens. Le fika, il a fait ou sheksha le bavo keneged damakotchi ou machiot oto leshloah. Mais maintenant, l'équilibre est bon. Il y a un équilibre. Parce que les plaies font que tu craques. Mais ce qu'il craque, c'est pas une teshuva. Ce qu'il craque, c'est simplement qu'il craque. Or, ça, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il se travaille à l'intérieur. Pour cela, il faut lui donner la capacité de résister. Ça, c'est Dieu lui donne la capacité de résister, dans l'autre sens. Donc, les deux explications sont complémentaires. Première explication, il voulait que la reconnaissance de Dieu vienne par Pharaon. Qu'il répare sa faute d'avoir causé que le nom de Dieu soit disparu. Deuxième chose, on peut remarquer que les cinq premières makot, patati repatati. Ok, c'est magnifique, hein? Mamash. Ashrenu vatov chelkenu. Ok, on va s'arrêter là pour le moment. Très bien, j'ai aucune idée de l'heure là, mais brave.
11h15.
Oh, c'est bon. C'est bien. Allez.